l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. L'émission de la Maison des tiers-mondes et des solidarités internationales, qui est devenue la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale, se réjouit aujourd'hui de l'ouverture de la quinzaine des solidarités qui a débuté ce samedi avec une course à pied d'abord et puis tout un programme de musique et de rencontres avec les différentes associations qui constituent ce collectif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dany Schack et Pierre Bourget, qui représentent l'un et l'autre des associations différentes. Mais je voudrais commencer par revenir sur l'hommage que nous avons rendu et que nous aimerions continuer, poursuivre, à Madeleine Guyot, auquel un ouvrage vient d'être consacré, justement par Pierre Bourget, qui est ici présent. Pierre Bourget, pardon.
Oui, Pierre. Ben, voilà, il m'a paru important l'année dernière de rendre hommage, rendre témoignage à Madeleine et à Guy Guyot, tant leurs engagements sont multiples et ont duré toute leur vie. Donc, j'ai pu réaliser, écrire un petit texte et auquel se sont joints des contributions, quelques contributions de militants, de compagnons de route de Madeleine et de Guy. Et ce texte vient de sortir, il est publié aux éditions L'Harmattan. Donc il s'appelle « Une vie d'engagement, Madeleine et Guy Guyot ». Voilà, donc c'est vraiment un texte en hommage à ces deux personnes qui ont consacré toute leur vie à des engagements multiples, toujours pour les droits humains, toujours pour la justice, toujours pour la paix et le développement.
Très bien, merci. Donc, je reçois aujourd'hui Dany Schack, qui va participer cet après-midi, en fin d'après-midi, à l'une des premières manifestations de la quinzaine. Nous en avons prévu environ une douzaine. Et la première va être consacrée à un thème bien particulier, bien manger pour bien apprendre, un duo gagnant. Mais auparavant, Dany va nous présenter un peu l'association dont elle fait partie, qui s'appelle « Pour un sourire d'enfant ».
Oui, bonjour. Donc, l'association « Pour un sourire d'enfant » est une association qui est au Cambodge, à Phnom Penh, qui a été créée il y a 25 ans par un couple, Marie-France et Christian Despalières, et qui prend en charge les enfants les plus pauvres parmi les pauvres au Cambodge pour leur scolarité et leur vie, leur nourriture, leur améliorer leur quotidien. Donc, en résumé rapidement de l'historique, en 1995, Christian et Marie-France Despalières vont au Cambodge. Le Cambodge, à cette période-là, avait subi 15 ans plus tôt un drame avec les mers rouges et étaient dans une pauvreté immense. Mais ils ont découvert la pauvreté parmi la pauvreté des enfants qui travaillaient sur les décharges. Donc enfants maigres, malades, sans scolarité, enfin l'horreur, il n'y avait pas d'autre nom. Donc complètement bouleversés, ils ont décidé d'essayer de faire un petit quelque chose. La première chose qu'ils ont faite a été de créer une petite cantine près de ces décharges où ces enfants pouvaient avoir un repas par jour. Et puis, ils sont revenus en France, ils ont essayé de récupérer un petit peu d'argent, famille, amis, et ils ont, avec l'autorisation du gouvernement, ouvert une école. Parce que les enfants leur ont demandé de manger, mais aussi ils voulaient aller à l'école. Tous ces enfants étaient des illettrés, ils avaient entre 5, 10 ans, 12 ans, et Donc, première école dans un centre en banlieue de Phnom Penh pour faire récupérer ses enfants. Ça, c'était il y a 25 ans. Au jour d'aujourd'hui, plus de 12 000 enfants ont été pris en charge au fil des ans. Et actuellement, en 2023, nous dirons, il y a 6 000 enfants pris en charge toute l'année. Ces 6 000 enfants seront divisés en trois. En premier, les tout-petits qui sont dans des paillotes, ce sont des maternelles, des jardins d'enfants, où les enfants sont pris en charge de 3 ou 6 ans et ils vivent des fois à côté du bidonville. Ils sont pris en charge toute la journée et ont un repas par jour. Ensuite, il y a des enfants, environ 2500 aussi, non 1500, qui sont pris en charge, mais dans leur école. C'est-à-dire qu'ils suivent les cours dans les écoles de leur quartier, mais avec une aide et un suivi d'une assistance sociale, parce qu'ils font partie des pauvres. Et pour un soir d'enfant, leur donne à la famille du riz toutes les semaines pour aider à l'alimentation. Et enfin, il y a tous les enfants qui sont au centre, ce qui est devenu cette petite école et maintenant le plus grand complexe de formation scolaire du Cambodge. Dans ce centre, nous trouvons une cantine où tous les jours sont servis 3000 repas à midi, un centre médical pour les enfants et leurs familles, un service pour des enfants handicapés et des écoles. Parce que Christian Despalières a réalisé un jour, c'est bien de leur apprendre à lire et qu'ils aient des... Mais après, il faut leur aider à trouver un métier. Donc, il y a des formations reconnues par le gouvernement. Il y a une école hôtelière, il y a une école de mécanique, il y a une école de coiffure, il y a une école de gestion et business school. Différentes écoles pour que ces enfants, après, repartent dans une vie active. Pour les enfants qui peuvent faire des études plus important, je dirais, enfin, s'ils veulent faire médecine, droit ou autre, PSE les suit et les aide. Et il y a aussi une école de cinéma, c'est la seule école du Cambodge. Et ce soir, pendant la soirée, nous verrons un petit film sur PSE et ses relations, j'oserais dire, au niveau de l'alimentation, qui a été tourné par cette école de cinéma à Phnom Penh.
Très bien. Donc, on peut vraiment considérer que le programme de ce soir, le rapport entre les cantines et l'éducation est parfaitement illustré par vos activités depuis plus de 20 ans, qui associent donc l'école et l'alimentation
dans les cantines. La nourriture équilibrée, une nourriture pour ces enfants à aider.
Alors, ce débat va avoir lieu à la salle Jacques Ier d'Aragon à partir de 18h30 cet après-midi. Et il sera nourri des interventions de plusieurs associations, par exemple Enfants du Mékong, qui travaillent dans toute l'Asie du Sud-Est. L'association Partage avec les enfants du monde, l'association dont on vient de parler, Pour un sourire d'enfant, l'appel avec son antenne Occitanie et l'UNICEF. Voilà. Donc la question à traiter, c'est pour bien manger, pour bien apprendre, un duo gagnant. La question serait qu'est-ce qu'on appelle bien manger, à votre avis, Dani?
Bien manger, c'est avoir une nourriture équilibrée. Oui. On entend, nous, en France, souvent, on nous dit manger des fruits et des légumes. Donc, ces enfants, et pour leur avenir et leur... Tous les jours, avoir une quantité et une alimentation équilibrée, c'est-à-dire des protéines, des lipides, des glucides, enfin voilà. Bon, ça c'est la base, mais et tous les jours en quantité suffisante.
Voilà. Et ça c'est le grand problème que l'on rencontre dans les pays africains, par exemple, où la nourriture se réduit souvent à peu de choses. Hein, et en tout cas, il n'y a pas cette variété de fruits, de légumes que l'on pourrait espérer. Voilà.
Maintenant, je pense que ce soir on va parler, chaque enfin, chaque pays, chaque continent a des nourritures différentes. On mange du riz en Asie, on mange du mil en Afrique, on mange du blé en Europe, mais quel que ce soit, qu'il y ait des quantités suffisantes pour que l'enfant se développe normalement, sans manque.
D'accord. Donc, je rappelle à la fois le lieu, salle Jacques Ier d'Aragon. Cette salle se trouve, quand on vient du centre-ville, de l'autre côté du Lez, pas loin de la faculté de sciences économiques. Voilà. Et c'est à partir de 18h30, avec un véritable débat sur ce duo gagnant, que sont la bonne nourriture et l'éducation. Nous allons maintenant écouter un morceau musical d'une chanteuse africaine.
Ponciana, 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 Monsta grave chano caboque. Ponciana, 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 Monsta grave chano caboque. Ponciana, 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 Monsta grave chano caboque. Ponciana era pariguinha parecidinha, a mim criava o coágulo tinha boca. A vontade bem trajar o couturo mimo, pra bem casava com imigrante de Holanda. Ponciana era pariguinha parecidinha, a mim criava o coágulo tinha boca. A vontade bem trajar o couturo mimo, pra bem casava com imigrante de Holanda. Ponciana, 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 mostra grave chano caboque. Ponciana, 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 oi, mostra grave chano caboque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazer caro cantando esse filho de mana de Holanda. Mas na mês de agosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem em casa com o vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazer caro cantando esse filho de mana de Holanda. Mas na mês de agosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem em casa com o vó. Ponciana, 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 mostra grave chano caboque. Ponciana, 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 oi, mostra grave chano caboque. Ponciana, 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 mostra grave chano caboque. Ponciana, 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 oi, mostra grave chano caboque.
Merci. Alors maintenant, je me tourne vers Pierre pour qu'il nous présente un peu le débat qui va réunir. Donc, ça sera pour jeudi.
C'est jeudi, 23 novembre, au Gazette Café.
Gazette Café.
Voilà,
oui.
6 rue Leva, à Montpellier. Donc, sur le thème alimentation, crise et spéculation financière.
Voilà.
Voilà, on souhaite faire à la fois, donc c'est une soirée en deux parties, et il y aura deux intervenants. Il y a un premier intervenant, c'est le professeur Jean-Louis Rastoin, oui, qui est donc agroéconomiste,
oui,
professeur honoraire d'économie et de gestion de l'entreprise à l'Institut agronomique de Montpellier.
Oui.
Il a conseillé aussi la chaire UNESCO en alimentation du monde. Et il a publié un certain nombre d'ouvrages sur, notamment, la sécurité alimentaire mondiale. Alors, ça, c'est la première partie. On veut faire le point sur la situation alimentaire dans le monde, qui, on le sait, est quand même marquée par une nouvelle hausse à la fois de l'inflation, de la faim et de la précarité. Hein, précarité alimentaire aussi. Et cela depuis la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine. À quoi se rajoute maintenant le conflit en Palestine, mais pour l'instant, on n'a pas de conséquences.
La guerre en Ukraine qui a,
L'Ukraine a augmenté. L'Ukraine étant un des greniers,
voilà,
à blé mondiaux,
a
fortement impacté la situation alimentaire mondiale, notamment dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, puisque c'est des fournisseurs de ces pays-là. Alors, donc, on souhaite faire le point. Il faut quand même rappeler qu'il y a à peu près 9 millions non, 9% de la population mondiale est concernée par l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire, l'insécurité alimentaire, c'est ne pas bénéficier de façon régulière d'une alimentation adéquate. Donc, c'est quand même considérable, 9% de la population mondiale. Et c'est en progression, puisqu'en 2019, c'était seulement 7,9. Voilà. Donc, on voit la progression de l'insécurité alimentaire. Et puis, il y a la faim chronique aussi, qui est importante, puisque... ça touche également des millions de personnes. Voilà, donc la situation est évidemment contrastée, on l'a dit aussi, on l'a vu aussi avec Dany tout à l'heure, là, dans le monde, mais c'est l'Afrique surtout qui est très impactée, puisqu'elle voit la faim continuer à progresser. La situation dans la Corne de l'Afrique est catastrophique, et également dans la République démocratique du Congo, c'est horrible aussi. Voilà, alors les causes sont bien connues, mais il faut quand même les rappeler. La pauvreté, les inégalités, les conflits, les impacts du développement, du dérèglement climatique, mais aussi l'accaparement des terres par des multinationales ou par des États, l'agrobusiness et le modèle productiviste. Tout ça est en cause. Donc, on va justement faire le point sur cette situation alimentaire mondiale. Et donc, ensuite, il faudra essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés agricoles, puisque le prix des produits agricoles a fortement monté. On sait bien que l'inflation alimentaire, dans la totalité de l'inflation, est très importante. Tout le monde s'en plaint, y compris en France. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et c'est là où la spéculation intervient. C'est là où il faut comprendre que les marchés agricoles, qui étaient des marchés d'échange commerciaux, donc entre les producteurs et des pays qui allaient ou des organismes qui permettent les échanges de produits agricoles, ont été envahis
par la finance.
Par la finance. Voilà la finance met la main dessus. Alors la finance, c'est quoi ? C'est des investisseurs. Ce sont des acteurs financiers, des fonds d'investissement, des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des fonds de placement collectif. Bref, le monde de la finance qui a mis le grappin, mais est en train de mettre le grappin sur les marchés agricoles parce que ils en tirent du profit. Voilà.
Ces marchés agricoles qui sont surtout basés en Angleterre et à Londres, je crois, non ?
Oui, mais...
Pour beaucoup de produits.
Oui, tout à fait. Il y en a partout. Il y en a dans les grandes capitales mondiales. Mais ce qui compte, c'est cette infiltration de la finance qui est catastrophique parce qu'elle spécule et donc elle met à genoux aussi les producteurs. Quand on passe de... 2 à 10% de prix d'un produit, vous vous rendez bien compte que le petit producteur, lui, c'est pas lui qui va gagner les 10%.
Bien sûr.
Donc, les 10. Alors, il faut donc comprendre ces mécanismes et on va se baser sur un travail qui a été fait par le CCFD Terre Solidaire en partenariat avec l'ONG Food Watch, c'est de l'anglais, c'est veille sanitaire, on pourrait traduire. Enfin, ça s'appelle Food Watch. Et qui a produit un rapport au mois de juin, justement, sur la spéculation financière, voilà, dans ces marchés agricoles. Donc, l'idée, c'est qu'il faut réguler ces marchés, il faut faire en sorte qu'ils soient à la fois transparents et régulés, avec un certain nombre de mesures qu'on détaillera, qu'on essaiera de voir, parce que, sinon, c'est l'avenir des producteurs et aussi des consommateurs. Tout le monde est impacté par cette crise alimentaire et par cette spéculation financière sur les marchés. Donc, c'est un domaine qui nous semble très important. Et voilà. Donc, ça sera abordé. Le premier point, je l'ai dit, la situation alimentaire, c'est le professeur Rastoin, Jean-Louis Rastoin, qui va en parler. Et le deuxième point, le décryptage des mécanismes de spéculation financière, c'est José Forneron, qui est du CCFD Terre Solidaire, et donc qui appartient aussi au collectif Éthique sur Étiquette, qui va en parler, puisqu'il est aussi économiste de formation. Voilà, donc...
Est-ce que tu peux préciser ce que recouvre le collectif sur l'étiquette?
Alors, le collectif Éthique sur étiquette a été créé en 1995 aussi, donc à peu près aux mêmes périodes que Espoir pour un enfant, Sourire pour un sourire d'enfant. Et il regroupe des syndicats, la CFDT notamment, des associations de consommateurs, ASECO-CFDT. Il regroupe aussi le CCFD Terre Solidaire. Et il regroupe aussi Artisans du Monde, le CDTM RITIMO, hein, qui est donc le Centre de Documentation Tiers-Monde. Il y a aussi, avec les Guyot, il y avait le mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté. Voilà. Et nous sommes en partenariat avec ATTAC sur la question de la régulation et de la transparence des multinationales. Donc notre objectif, c'est effectivement la sensibilisation sur ces droits humains au travail au Sud, pour lesquels qui sont complètement bafoués par les multinationales notamment. Si je peux en dire deux mots sur la situation au Bangladesh tout à l'heure. Et donc, premier objectif, respect des droits humains au travail au Sud, particulièrement dans les usines textiles. Deuxièmement, donc régulation et transparence des multinationales. Et puis, également, la défense, enfin, l'information des consommateurs sur la qualité sociale des vêtements. Voilà. Donc, toutes ces associations, chacun dans leur domaine, peuvent développer les thématiques du collectif et nous le faisons à travers un certain nombre de conférences ou autres.
Est-ce qu'il y a des moyens de pression sur, sur cette situation?
Justement, le collectif Éthique sur étiquette a contribué avec d'autres et un certain nombre de parlementaires de gauche qui étaient engagés aussi pour les droits humains au travail. Nous avons contribué à faire en sorte qu'il y ait une loi, la loi devoir de vigilance sur les entreprises, qui a été votée en 2017, une des dernières lois du gouvernement Hollande, et qui permet d'établir une cartographie des risques pour l'ensemble, pour les entreprises multinationales. Et cette cartographie des risques donc doit servir normalement à un plan de vigilance qui impacte non seulement la société mère, la multinationale, mais toutes ses filiales. Donc, c'est-à-dire qu'on va toucher les usines au plus près du terrain de la production textile notamment. Hein. Mais c'est pas seulement uniquement pour le textile, cette loi. Donc, c'est un premier pas dans la régulation des multinationales, dans le fait qu'il faut qu'elles soient responsables de la violation des droits humains au travail au Sud. On sait que dans tous les domaines de ces droits, que ce soit les conditions de travail, les horaires, le salaire, etc., tout ça, ces droits humains ne sont pas respectés. Et jusqu'à présent, les multinationales disaient « Ah, mais c'est pas ma responsabilité, c'est mon fournisseur, c'est mon sous-traitant, moi j'y peux rien ». En réalité, si vous êtes les donneurs d'ordre, et donc vous devez également être responsable de ce qui se passe en aval. Voilà. Donc cette loi a fait un petit peu son chemin qui est insuffisante. Hein, on pourra en reparler de manière précise, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Mais c'est un premier pas. Elle est en train d'ouvrir la voie au niveau européen également à une directive sur le devoir de vigilance, bon, qui sera sans doute pas non plus le top du top, mais c'est un premier pas. Et au niveau mondial, il faut savoir qu'il y a aussi un projet de traité à l'ONU sur la régulation des multinationales et le respect des droits humains au travail. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un mouvement de fond, et on sait bien que c'est long, difficile et conflictuel, mais qui permet d'avancer quand même.
Et par exemple, pour la production agricole, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers un soutien des petits agriculteurs, je pense à l'Afrique en particulier, où nous intervenons avec l'appel. Mais j'ai constaté que, par exemple, on a des parents d'enfants dont on s'occupe, qui ont des petites plantations, mais qui ne sont pas en mesure de commercialiser leur production. Et donc là, il y a un problème de développement qu'il faudrait pouvoir, de soutien et au développement, en quelque
sorte. Ça fait partie de l'aide au développement qu'il faut continuer. Je dis qu'il faut continuer l'aide au développement. On sait qu'une partie est détournée par les dirigeants et les administrations locales, c'est un fait. Mais donc, il faut aller vers plus de régulation, là aussi, de cette aide. Mais elle est absolument nécessaire. Oui. Et je ne parle même pas de la dette climatique des pays développés à l'égard des pays du tiers-monde. Enfin, mais parce que là aussi, nous sommes en retard. Il y a, je crois, plusieurs milliards qui étaient prévus, promis pour cette question de climat qui n'a pas été versée. Eh bien, c'est pareil pour le développement agricole. Et il faudrait développer l'agroécologie. En fait, il faut changer arriver à faire en sorte que l'agroécologie prenne une part prépondérante, c'est-à-dire en fait aider les petits paysans à se développer au détriment de l'agrobusiness. Ouais. Et ça, c'est en France aussi, ou dans les pays développés, le combat est le même. Hein. Voilà. Donc, parce que derrière l'agrobusiness, il y a aussi des multinationales qui manipulent et qui spéculent, etc. Et qui ne respectent pas les droits humains au travail.
Oui, mais alors très souvent, les techniques qui permettraient de mieux cultiver ne sont pas connues des populations qui travaillent dans le domaine agricole, par exemple. Hein. Toute cette
agroécologie.
Écologie.
Ah ben, il y a un gros travail d'information, de formation des paysans et de soutien, c'est certain. Mais là, il y a beaucoup déjà d'associations qui s'en occupent. C'est pas le rôle du collectif là d'éthique sur étiquette de le faire. Mais c'est vrai que ça fait partie du problème, bien entendu.
Et vous, Dany, est-ce que vous êtes concerné par ces problèmes politiques en fait, hein ? C'est le revers politique du problème.
Ben, pas directement pour un sort d'enfant, mais un habitant. Oui, parce que je ne saurais pas très clair. Au Cambodge, il y a des problèmes sur la culture du riz. Où il y a de moins en moins de culture du riz parce que des grandes sociétés chinoises investissent pour faire d'autres cultures. Il y a des petits paysans qui meurent de faim. Après le Covid, il y a eu des drames au Cambodge de famine parce que à cause de ces alimentations et tout. Toujours vous parlez des vêtements. Bon, ben, au Cambodge, il y a des usines entières où travaillent des pauvres jeunes filles qui sont des usines chinoises. Ça, ça n'a rien à voir avec PSE, mais c'est le Cambodge, effectivement. Ouais. Ces problèmes là-bas sont réels, effectivement. Et quant à l'augmentation du coût, le prix du riz a beaucoup augmenté quand on sait que c'est leur base pour tout le monde. Oui, le Cambodge, c'est comme tous les pays. C'est la raison, on parle beaucoup de l'Afrique, en Asie, il y a encore, enfin, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie, les pauvres des pauvres sont toujours pauvres, hein. Et la première atteinte, c'est la nourriture.
Ça, c'est clair. La principale production agricole, c'est le riz.
Oui.
Et il y a une concurrence terrible entre la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, etc.
Oui, justement, la spéculation financière fait en sorte que, en Afrique, on fait venir du riz d'Asie, hein, parce que c'est moins cher. Mais résultat, ça appauvrit et ça déstructure complètement les marchés du riz en Afrique. C'est honteux. Alors qu'il faudrait les développer.
Oui, là, c'est typiquement le genre de problème où l'éducation, la formation est en retard parce que les Africains, en Côte d'Ivoire en particulier, au Sénégal, ont essayé d'implanter le riz, des rizières, et ça marche très difficilement. Hein.
Oui, mais il n'y a pas un soutien suffisamment fort des gouvernements,
voilà.
Hein, et qui sont là aussi aux mains des multinationales ou qui se laissent manipuler et corrompre, il faut le dire, et aussi parce que justement, il n'y a pas de régulation de ces marchés financiers et donc ils font ce qu'ils veulent.
Vous avez aussi un marché des gouvernements touristiques. Au Cambodge, autour d'Angkor, des terrains sont pris aux paysans ou aux pêcheurs pour faire des hôtels, pour un aéroport et tout. Et là aussi, c'est la population qui subit ces conséquences. Là, c'est de l'argent pour le gouvernement.
Alors, je vais rappeler les deux manifestations dont nous venons de parler. Cet après-midi, à la salle Jacques Ier d'Aragon, un débat sur « Bien manger pour bien apprendre », un duo gagnant, point d'interrogation. Et puis, jeudi, à 19h au Gazette Café.
19h30.
À 19h30 au Gazette Café, un débat également avec la participation de Jean-Louis Rastoin, professeur émérite à SUPAGRO, et du collectif Éthique sur l'étiquette, ainsi que le collectif Régulation et transparence des entreprises, avec Artisans du Monde, Action contre la faim, le CDTM, ATTAC et MDPL. J'ajouterais, bien que ça ne fasse pas partie du programme de la quinzaine des solidarités, une proposition théâtrale qui est faite par la compagnie Niak, la Niak Compagnie, dirigée par Perrine Anguère-Michelet, qui propose à l'AFPA, à Saint-Jean-de-Védas, un spectacle les 22, 23 et 24 novembre, donc dans le courant de cette semaine. Le Niak, la Niak Compagnie est animée par Perrine Anguère-Michelet. Voilà, chers amis, je vous remercie. Et à la semaine prochaine.
Merci.
Merci.